Tout pour investir en portefeuille. Avec Renan Blanc, gérant obligataire à la Financière Arbevel. Bonjour Renan.
Bonjour.
On s'est beaucoup focalisé sur les banques centrales, notamment sur la Réserve fédérale américaine, avec des anticipations de baisse de taux qui ont vraiment été revues à la baisse en l'espace de quelques mois. Certains analystes ont même envisagé qu'il n'y ait pas de baisse de taux aux États-Unis jusqu'aux élections du mois de novembre. La réalité, c'est que la détente des conditions de financement et les résultats d'entreprise ont été pour les marchés des moteurs beaucoup plus puissants que les taux très élevés des banques centrales, en fait.
Bah, c'est l'enseignement de la phase qu'on a vécue. En début d'année, on se souvient, il y avait entre 6 et 7 baisses de taux qui étaient anticipées.
Certains prédisent
aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, avec les vieux réflexes du passé de dire de toute façon la BCE n'agira jamais avant la Fed, c'est jamais arrivé, etc. Bon, on sait que ces dernières années, les choses qui ne devaient jamais arriver se sont souvent produites. Le vrai enseignement, c'est que le logiciel de pensée des banques centrales est modifié a priori quand même dans la durée, c'est-à-dire que les baisses préventives de taux qu'on a pu connaître dans le passé appartiennent au passé, ça c'est clair, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est aussi le signe finalement que les choses vont pas si mal, hein, ce fameux ralentissement en douceur que certains avaient encore du mal à accepter, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dessiner. Les entreprises n'ont pas attendu qu'on leur dise d'agir pour prendre des mesures, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, hein. À la fois les ménages ont beaucoup mis de côté, mais les entreprises sont aussi assises sur des matelas de sécurité assez épais. Et maintenant qu'on gagne un petit peu en visibilité sur le cycle économique et même monétaire, puisque baisse de taux il y aura quand même, hein, ça sera un accompagnement plutôt qu'un grand cycle de baisse, bah, ces liquidités vont être progressivement redéployées. Donc c'est ce qui explique finalement que même si certains ont pu être déçus du retard ou peut-être du rythme inférieur aux attentes sur cet accompagnement monétaire, bah finalement les actifs risqués se portent plutôt pas mal depuis le début de l'année.
La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera le 6 juin. A priori, elle va annoncer une première baisse de taux. Quelle est l'urgence de baisser les taux? En Europe, 70% des entreprises continuent de se financer principalement avec du crédit bancaire. Est-ce que ça ne montre pas l'urgence justement d'alléger un petit peu la pression et de baisser les taux?
C'est le facteur qui est vraiment déterminant entre les deux côtés de l'Atlantique. Hein. Au-delà du fait que la croissance américaine est plus élevée qu'en Europe, hein, on le sait tous, hein, ce gap est en train progressivement de se creuser. On sait que depuis le mouvement depuis la crise financière de 2008, il y a un mouvement de désintermédiation qui s'est enclenché. Donc, sous-entendu, les entreprises européennes essayent de rattraper leurs homologues américaines dans leur diversification à l'accès au financement. Elles étaient trop banques, pas assez marché.
Donc ce ratio, quand même.
Oui, mais le truc, c'est que c'est un process qui est long. Donc ce 70%, ça veut dire que cette fameuse transmission monétaire que la BCE nous rappelle à l'ordre, elle est d'autant plus d'actualité chez nous. Donc ça veut dire que il y a une mécanique qui est un petit peu plus forte sur le fait que cette sensibilité au crédit bancaire face au taux de la BCE. C'est moins vrai aux États-Unis. Clairement, les portes du marché du crédit aux États-Unis sont très grandes ouvertes. C'est des ratios quasiment inverses. C'est-à-dire que c'est 30, un peu plus du tiers aux États-Unis où les entreprises dépendent principalement des banques pour se financer. Donc ce ratio-là, bah, il se voit, cette transmission monétaire, elle doit se faire mieux. Et c'est pour ça qu'on croit depuis un petit moment que la BCE est en capacité finalement de procéder à une première baisse avant la réserve fédérale. Donc c'est pas des divergences, hein, de cycle monétaire, c'est plutôt un décalage dans le temps, c'est-à-dire que la Fed elle va le faire quoi, peut-être en juillet, allez, maximum au mois de septembre. Il y a des éléments factuels un peu plus rassurants, notamment sur l'inflation américaine, mais il y a pas de précipitation à voir. Et je finirai là-dessus sur les banques centrales, c'est pas parce qu'elles commencent qu'elles vont aller en accélérant. Elles gardent vraiment toutes les cartes en main et elles vont pas trop dévoiler leur jeu. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y aura 3 baisses de taux en Europe cette année. Mais on va pas avoir un message très clair. Il faut pas s'attendre à un message très clair de la part de la BCE au mois de juin.
Et surtout, je crois que tout le monde est d'accord, on ne reviendra pas à la situation antérieure. Hein. La situation de taux négatif, c'était une anomalie.
Alors,
une anomalie bénie pour les emprunteurs, mais
a posteriori, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Hein. Quand on a le choix entre la peste et le choléra, bah, on choisit la moins mauvaise des solutions. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir oublier. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que quand on a des opérations de fusion-acquisition, des choix d'investissement qui sont faits par les entreprises, ils sont beaucoup plus mûris qu'avant. Là, on raisonne vraiment sur les retours sur investissement parce que le cash coûte de l'argent. C'est quelque chose qui n'existait pas pendant le Covid avec ces fameux taux négatifs. Donc, voilà, on atterrit sur une situation un peu plus normalisée, même si j'aime pas trop cette expression. Et finalement, c'est pas plus mal, puisqu'on a des choix d'investissement qui sont plus raisonnés aussi en face.
Depuis l'été dernier, près du tiers des échéances obligataires 2024-2026 ont été refinancées en Europe et pratiquement 40% aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les entreprises prennent les devants, elles veulent rester prudentes. Vous disiez, il y a quand même pas mal de prudence dans la gestion de ces entreprises.
Oui, alors, on nous parle souvent dans l'obligataire du fameux mur de dette. Ouais. C'est-à-dire, si on se rappelle un an auparavant, beaucoup nous disaient, sur le marché à haut rendement européen, il y a 200 milliards de dettes à refinancer d'ici 2026. Et comment on va faire ? En fait, on va faire. C'est-à-dire qu'on va avancer, pas par pas. Les entreprises prennent les devants, montrent au marché qu'elles sont capables de générer des flux de trésorerie positifs, hein, parce que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. La dynamique des résultats a plutôt été positive, enfin, oui, clairement constructive ces derniers trimestres. Hein. Et donc, du coup, là, à date, on a déjà enjambé un tiers de ce mur de dette. Depuis le début de l'année, on a quasiment 50 milliards d'euros d'obligations nouvelles qui ont été émises et qui viennent refinancer la dette existante. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, on ne rajoute pas de la dette à la dette. Hein, c'est simplement, on va proposer de racheter par anticipation les dettes courtes pour émettre du plus long. C'est ce qu'on appelle de la transformation. Donc, à ce rythme-là, d'ici le premier semestre de l'année prochaine, ce mur de dette sera quasiment enjambé en totalité. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur. Hein, l'obligataire, il y a toujours, par définition, un mur de dette. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation des entreprises et le fait que dans un scénario de, certes, croissance molle, mais croissance positive quand même, tout n'est pas à jeter. Alors, il y aura des histoires de restructuration, il y en a eu. Hein, on est en plein dans le scénario Atos, on a eu Casino précédemment, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment des stigmates post-Covid d'entreprises qui avaient un business model qui n'était viable uniquement par le fait que l'argent ne coûtait rien. Maintenant que l'argent coûte quelque chose, ces business models ne sont plus viables.
Et la génération de cash devient une priorité. Hein.
Ah, ça devient une priorité. Il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que oui, on peut prêter, il n'y a pas de difficulté en soi, mais il faut aussi prouver à un moment donné que cette dette, on va être en capacité de la rembourser un jour. Hein, c'est assez facile à comprendre. Et donc, il y a une minorité du marché de la dette en Europe qui sera amenée à sans doute restructurer d'une manière ou d'une autre sa dette. Alors, ça a différentes formes, hein, soit c'est le cataclysme total à la Casino et là votre dette, ça vaut plus rien. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des rallongements ou des réaménagements, c'est-à-dire qu'on va vous payer peut-être un coupon un petit peu plus élevé dans le futur. Voilà, c'est un peu la carotte et le bâton à la fin des fins, mais c'est quelque chose auquel il va falloir se réhabituer pour une minorité. Et donc notre boulot en tant que analyste crédit est bien évidemment d'éviter ces histoires crédit et d'aiguiller les investissements vers de la dette de meilleure qualité, mais qui aujourd'hui paye un rendement significatif.
Nouvelles conditions de financement, plus dures, plus restrictives, priorité à la génération de cash. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur, ce nouvel environnement, alors, en termes d'allocation d'actifs?
Alors, déjà, l'investisseur redécouvre l'obligataire depuis 2 ans, hein, c'est une réalité. Donc, l'obligataire retrouve sa place dans les allocations stratégiques, hein, une place qu'il n'aurait peut-être pas dû perdre, mais en tout cas, sous le diktat des banques centrales, ça a été le résultat qu'on a connu. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est bon pour le crédit est bon pour les marchés actions aussi. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale entre les deux. On a des actifs à rendement qui retrouvent finalement leur place dans les portefeuilles et sur les marchés actions. Maintenant qu'on retrouve un petit peu de visibilité sur le cycle économique et monétaire, on le voit depuis le début de l'année, on n'a pas eu ou très peu eu de baisse de taux, voire les taux souverains ont plutôt eu tendance à remonter, ce qui n'a pas empêché de voir des pertes plutôt positives sur les marchés actions. Et on continue à penser qu'il y a encore de la performance à aller chercher sur ce segment. Encore une fois, on ne met pas en opposition les classes d'actifs. Elles peuvent être complémentaires. Et d'ailleurs, on voit qu'en termes de valorisation, on a un petit peu de frétillement au niveau des opérations de fusion-acquisition qui sont encore une fois, plus raisonnés qu'avant et qui sont sans doute le stigmate d'un marché un peu plus sain.
Vous dites que le marché obligataire est de retour pour les investisseurs. Quel pourcentage dans un portefeuille type, la poche obligataire ?
Alors, nous, on est très peu sur les emprunts d'État, parce qu'on pense que, voilà, des notions de déficit, etc. Pour une allocation, entre guillemets, globalement prudente, on peut aller facilement tiers, voire 50%, selon les supports crédits. Alors, ça englobe toute la poche obligataire, hein. On a les placements les plus sécurisés. Nous, on propose un fonds aussi crédit court qui va bénéficier finalement de baisses de taux à venir. Et on peut aussi toujours militer pour les fameux fonds à échéance, hein, qui ont quand même animé le marché ces deux dernières années et qui permet de figer un rendement sur une maturité un petit peu plus longue. Et ça laisse les mains libres à, entre guillemets, faire son marché sur des poches un peu plus risquées, notamment sur la partie action.
Merci beaucoup, Renan Blanc, gérant obligataire à la financière Herbevel. Merci pour toutes ces explications.